Chelou. À la une, ce projet d'établissement public pour coordonner les secours, la frappe toujours fâchée est prête à retourner dans la rue. Et puis l'énergie thermique des mers, c'est pour bientôt. Le journal de 7h de la rédaction de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Lucie, on commence donc par cette nouveauté, un établissement public pour coordonner les secours.
Oui, tout le monde est sur le pied de guerre. L'État, les communes et le pays veulent faire évoluer le CTA. Hébergé à côté du SAMU au Taonnet, ce centre de traitement des alertes avait été créé pour centraliser les appels au 18, le numéro d'urgence des pompiers. C'est d'abord Harway et Piré qui avaient choisi de le porter. Rejoint en 2019 par Punaoya et Hitia, les autres communes n'ont pas rejoint le mouvement et le CTA pas assez gros pour diluer ses coûts. C'était retrouvé en 2023 au bord de l'implosion, mais d'autres communes se disent aujourd'hui intéressées pour en faire partie et des discussions ont avancé avec l'État et le pays sur l'avenir de la structure. C'est ce que confie le Tavana de Harway, Théora Iriti.
Oui, nous sommes 4 aujourd'hui. Cette année, 2 autres communes donc intégreront. Et d'ici la fin de l'année, on aura un nouveau statut juridique pour cette structure qui sera portée donc par, et je l'espère et je suis même très très confiante, par les communes de la Polynésie française, le pays et l'État qui vont nous soutenir.
Voilà un nouveau statut. Aujourd'hui, le CTA est un service de la mairie de Harway, mais l'État a décidé de ressusciter un texte de 2006, une ordonnance signée à Paris qui prévoit la création d'un établissement public d'incendie et de secours en Polynésie, qu'on appelle aussi EPIS. Il devrait rassembler toutes les communes, voire même des communautés de communes et le pays. L'EPIS devra conseiller, informer, réaliser des études en matière de sécurité civile, avoir des moyens complémentaires à ceux des communes et bien sûr mettre en place un CTA. Les décrets n'ont jamais été pris par l'État, les communes n'ont jamais adhéré en masse au projet, mais le vent est en train de tourner. Le Haut-Saria a organisé de nombreuses réunions ces derniers mois, des études ont été menées et les communes, notamment celles de la société, sont intéressées, mais à une condition, que l'État et le pays en financent une partie. Et si les chiffres manquent encore, des engagements sont pris du côté du ministère de la Santé. On réfléchit même déjà aux locaux de ce futur service du 18 qui doit être installé à côté du 15.
On commence à trouver un petit peu de place, on est en train de réfléchir au niveau du CHPF à établir d'autres espaces et il y a des capacités aujourd'hui à pouvoir mettre tous les éléments en un même endroit avec une capacité d'action qui doit être à côté des urgences, parce que n'oublions pas qu'on a un seul service d'urgence et de réa en Polynésie et que quand c'est vraiment vital, on doit être juste à côté. Et donc la gestion du flux plus l'urgence vitale à côté, ça permet aux équipes de se mobiliser, partir une fois que le coup de fil a été passé.
Voilà le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, qui estime que les planètes s'alignent enfin pour la création de cet établissement public d'incendie et de secours. Pas de calendrier encore, mais du côté du CTA, on s'attend tout de même à des annonces et donc des bonnes nouvelles dans le courant de l'année.
Dans l'actualité, on vous donne des nouvelles de la frappe.
Le Conseil supérieur de la fonction publique s'est réuni hier après-midi et comme prévu, ça ne s'est pas bien passé. Parmi les 8 propositions de revalorisation des catégories D qui étaient sur la table, une a été choisie par l'administration et 2 des syndicats. Elle consiste à augmenter de 12 points les échelons les plus bas, soit presque 13 000 francs de hausse pour les plus bas salaires. Coût pour la collectivité 250 millions de francs par an, presque 2 fois plus que le projet initial de l'exécutif. On écoute la ministre de la fonction publique, Vanina Crolla.
L'idée vraiment est de favoriser les plus faibles salaires, c'est ce qu'on a toujours dit depuis le début. En fait, c'est un complément de ce qui avait été décidé le 23 décembre pour 166 millions. Et là, donc, en fait, on vient maintenir les 5 points minimum pour l'ensemble des agents de catégorie D, sauf que pour les premiers échelons, ben, ils en auront plus, puisque c'est les plus faibles revenus.
Mais pas de quoi satisfaire la frappe et ses alliés. Ils ont voté contre. 12 points n'est pas suffisant. Ils veulent une augmentation de 20 points. Et puis c'est la manière qui n'a pas plu au syndicat de Jean-Paul Ourima. Il estime que les autres syndicats n'avaient pas à être consultés. Il demande à ce que l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique ne soit pas pris en compte.
On attend qu'on soit saisi dans le cadre de négociations, pas dans le cadre d'une réunion du Conseil supérieur. C'était inconcevable que nous, on puisse venir discuter de nos négociations devant des personnels de l'administration et d'autres syndicats, quoi. C'est la première fois qu'on voit ça. Il n'y a jamais eu de rencontre de ce genre-là. Jamais dans le cadre d'une grève, on a sollicité le Conseil supérieur pour décider de ce qu'adviendra le mouvement social, quoi.
Vous venez d'entendre Georges Athéo de la FRAP, et la FRAP qui exige même l'invalidation de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Pour eux, la procédure n'a pas été respectée. La ministre a dit prendre note de cette demande, mais précise que tout projet modifiant les statuts de la fonction publique doit de toute façon obligatoirement passer par ce Conseil, même si l'avis de celui-ci n'est que consultatif. Alors est-ce que le gouvernement va suivre l'avis rendu hier ou l'invalider comme le demande la FRAP ? Réponse dans une semaine, quand les propositions seront soumises au Conseil des ministres, mais la FRAP se dit prête à reprendre sa grève qui avait été suspendue voilà une semaine.
Et c'est Gaston Flosse aussi qui est de retour dans l'actualité.
L'ancien président du pays a été entendu par une juge d'instruction le 10 janvier dernier, révèle France Inter dans l'affaire Robert Boulin. En 1979, le ministre du Travail avait été retrouvé mort dans un étang en région parisienne, membre du RPR, un parti dont Gaston Flosse était une figure à l'époque. Il menaçait, selon des témoins, de balancer des dossiers sur le financement du parti en lien avec la France-Afrique. L'enquête avait conclu à un suicide, mais la famille Boulin conteste cette version. Alors député, Gaston Flosse avait été le dernier à rencontrer Robert Boulin avant sa mort lors d'un entretien au ministère du Travail. D'après France Inter, l'ancien président de la Polynésie a indiqué à la juge ne pas croire à la version du suicide mais ne pas avoir non plus plus d'informations à communiquer. Il a expliqué qu'il ne participait pas aux discussions politiques du RPR, ce qui est un mensonge éhonté, a répondu l'avocate de la famille de Robert Boulin.
Autre sujet dont on parle régulièrement, l'énergie thermique des mers.
Bientôt 20 ans que le sujet revient sans avancée particulière, mais l'idée de concrétiser cette technologie en Polynésie française est toujours bel et bien là. D'ailleurs, c'est inscrit noir sur blanc dans la feuille de route de l'économie bleue du gouvernement. Le fait de soutenir les projets de développement des filières d'énergie marine, et le pays assure que le mouvement est lancé et que ses engagements vont se concrétiser dans les semaines à venir. Et un acteur local, la société Aeraro, est prête. Experte en SWAC, elle dit être prête à développer l'ETM. On écoute son PDG, Jean Oursouri-Gareille.
On est capable de développer une nouvelle énergie renouvelable livrant de la puissance garantie au prix du marché. C'est cette technologie qui permettra de passer le cap et de dépasser les 50% d'énergie renouvelable dans notre consommation électrique.
Et Aeraro veut d'ailleurs lancer directement une première unité commerciale, 5 MW, qui pourrait fournir 8% de l'électricité de Tahiti. Il reste tout de même une étape. La société veut faire construire et tester en usine l'échangeur du futur ETM, une grosse pièce de 12 mètres en titane. Des mesures qui ne peuvent pas être modélisées sur ordinateur et qui coûtent cher, plus de 477 millions de francs. Le PDG assure que des financeurs nationaux sont prêts à participer, mais il attend avant tout un soutien clair du pays.
Il est 7h07, ces chiffres maintenant, Lucie, de nombreux jeunes Polynésiens ont des envies d'ailleurs.
Oui, c'est ce que nous dit une étude menée en 2023 par l'ISPF auprès des élèves de terminale. Plus de 3300 jeunes y ont participé et cette étude, elle montre notamment que 60% des lycéens jugent leur scolarité utile. Alors d'abord parce qu'ils l'estiment comme un bon vecteur de lien social et ensuite pour son importance pour leur futur parcours professionnel. Et à l'inverse, 17% d'entre eux préféreraient travailler tout de suite, tandis que 11% jugent le lycée contraignant et inutile. Mais surtout, ces statistiques permettent d'en savoir un peu plus sur les projets d'avenir des jeunes, Valdemar Delage.
Oui, l'ISPF note que près des trois quarts des élèves de terminale souhaitent poursuivre leurs études ou une formation. Quel que soit leur projet, 77% d'entre eux disent vouloir rester sur le territoire dans l'année qui suit leur sortie du lycée. En revanche, à plus long terme, les Polynésiens ont tendance à vouloir voyager un peu. Un élève sur cinq se voit par exemple vivre en France métropolitaine sous 5 ans. Plus d'un sur 10 se projette même à l'étranger, dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou la Nouvelle-Zélande. Finalement, à peine plus de la moitié se voit vivre fénois dans 5 ans.
Ces envies d'ailleurs ne sont toutefois pas perçues comme définitives. La moitié d'entre eux souhaitent revenir à terme aux Fénois.
On termine en allant à Paris avec le haut commissaire Eric Spitz.
Oui, élevé en juin dernier au grade le plus prestigieux de l'ordre du mérite, celui de commandeur. Il sera officiellement décoré ce mardi soir en métropole, donc ce matin à Tahiti. Et pas par n'importe qui, c'est tout simplement le président de la République, Emmanuel Macron, qui lui remettra son insigne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup, Lucie. Maintenant, on passe à la météo sur Radio.